Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, évidemment, nous allons parler du Moyen-Orient,
Tiens donc.
particulièrement de l'Iran, mais enfin tout le Moyen-Orient est concerné. Bon, alors reprenons les fondamentaux un peu de ce qui s'est passé, même si je vais rien apprendre à personne. Enfin, ce samedi dernier, donc les Américains et les Israéliens ont bombardé conjointement l'Iran. La réponse ne s'est pas faite attendre. Hein. 2 heures après, l'Iran a bombardé le reste de la région. Et contrairement à certaines attentes, ils n'ont pas bombardé uniquement Israël et les bases américaines, mais ils ont bombardé en fait tous les pays du Golfe, donc tout ce qui est Arabie Saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats Arabes Unis, même certaines parties de l'Irak.
Je crois
Enfin
pas
bref.
Oman.
Pas Oman, effectivement, non, pas
Oman,
Oman.
ça vous permet de prendre une voiture et puis de filer à Oman et d'essayer de partir
Oui.
par l'aéroport d'Oman
Oui.
pour
Non,
ceux qui sont
c'est.
là-bas. Hein.
Voilà, effectivement. D'ailleurs, à mon avis, c'est par là qu'ils s'en vont. Hein. Il y en a plein qui s'en vont en voiture, donc par voie terrestre. Et ça a été une réplique assez puissante, assez forte. Certains disent que d'ailleurs les Américains ne s'y attendaient pas. Alors moi, je ne suis pas dans le secret du Pentagone, mais ça vient de plusieurs bruits de couloir. Et alors déjà, il faut dire aussi, dès le premier jour, il y a eu, comment dire, un succès militaire absolument énorme, qui est bah, tout simplement l'assassinat de Khamenei, d'Ali Khamenei. C'est quand même le chef d'État du pays. Ça fait 2 chefs d'État depuis le début de l'année, pour les États-Unis et
Premier, on l'a pas
Israël.
tué.
Le premier, ils l'ont pas tué, mais enfin bon, ils l'ont chopé à 6 heures du mat, ça n'a pas dû être très, très agréable. Et faire ça dès le premier jour, c'est quand même un succès militaire énorme. Alors
Ça
cependant,
prouve qu'il savait où il était.
ça prouve qu'ils savaient où il était. Alors cependant, on a l'impression que le régime n'en est absolument pas fragilisé, c'est-à-dire que
Bon, ils
c'est
auraient dû
aussi.
prévoir un peu quand même.
Oui, j'imagine. Alors simplement, la grande inconnue, c'était en fait le but de guerre, c'est-à-dire quel est le but en fait recherché par Donald Trump. Et le matin de l'intervention, il a fait un discours expliquant que ce qu'il voulait, c'était la fin du régime. D'ailleurs, il a appelé les manifestants à dire allez-y les gars, c'est votre moment. Vous essayez d'y aller depuis un certain temps. C'est maintenant ou jamais, en quelque sorte.
Ouais.
Et ça, c'était pas forcément connu. Et est-ce que selon vous, c'est le véritable objectif des Américains, ou est-ce que c'est autre chose, ou est-ce qu'il dit ça juste pour faire peur un peu aux officiels du régime iranien.
Mais je crois, si vous voulez, que ce qui se passe, c'est que. Et ce que je vais dire, bon, bien entendu, c'est mon opinion et je la partage, mais ça ne veut pas dire que je jure que c'est bien ou mal. Hein, c'est. Bon, l'impression que j'ai en suivant le Moyen-Orient depuis pas mal de temps, c'est quand même le rôle de l'Iran, c'était un peu de foutre le merdier, quoi. C'était, ils ont financé le Hamas, le Fatah, toutes les terroristes, etc. Ils ont foutu, ils ont permis, ils ont foutu en l'air le Liban. Bref. Donc, si vous voulez que le Moyen-Orient devienne une zone normale, je veux dire, où on puisse investir, élever des enfants, vivre tranquillement et tout, il me semble que ben, le but maintenant, c'est de se débarrasser de cette théocratie en Iran. Voilà, c'est
Ouais.
assez simple. De ramener, si j'ose dire, l'Iran dans le. Alors, il y a dans le concert des pays civilisés, donc il y a deux possibilités où ils y arrivent, si j'ose dire. Et à ce moment-là, on a un gouvernement normal. On aura peut-être besoin d'une personnalité pour la mener. On verra qui ça sera. Il faut qu'il soit accepté par l'ensemble du pays. Bon, ça, à ce moment-là, c'est bien. L'Iran redevient un pays normal. Ou bien alors, ça marche pas du tout. Et ce qui peut se passer, c'est qu'on ait une solution un petit peu à l'irakienne ou à la libyenne, où c'est le chaos en
Oui,
Iran.
une
Mais
espèce
tout
de
le monde
guerre civile permanente, oui, bien sûr.
S'en fout parce qu'ils ont une capacité à faire des dégâts qui est beaucoup plus faible que quand ils avaient un état normal, quoi.
Oui.
Donc je crois que la décision a été prise que si on veut que le Moyen-Orient devienne une zone un peu normale, bah il faut extirper la théocratie iranienne. Encore une fois, c'est l'analyse que je fais, mais ça ne veut pas dire que je pense que c'est bien ou que c'est mal, je m'en fous.
C'est pas un jugement moral, mais ça veut dire, est-ce que vous pensez par conséquent que d'un point de vue, on va dire, diplomatique ou militaire, c'est, on va dire, le principe de l'intervention est plus ou moins justifié, de ce point de vue?
Justifier, ça veut, juste, ça veut dire qu'il y a une connotation morale. Ce que je sais, c'est que dans les conflits, et celui-là, ça fait 50 ans qu'il a commencé, hein, c'est pas un nouveau conflit, il a commencé avec les Iraniens capturant les diplomates américains, c'était en 78, donc ça doit faire quelques années quand même. Dans les conflits, il y a un moment où vous allez vers les extrêmes. Hein. Vous savez, ce qui est étonnant, c'est que les États-Unis sont, cette fois-ci avec Israël, allés presque immédiatement aux extrêmes, c'est-à-dire à tuer le chef d'État, etc. Et que les Iraniens, en attaquant les pays arabes, vont immédiatement aux extrêmes aussi. Donc on sent bien que de cette lutte, il y en a un des deux qui va sortir ratatiné, quoi. Il y en a, ou bien c'est les États-Unis qui perdent, et Israël, ou bien c'est l'Iran. Mais maintenant, je pense pas qu'il y aura des considérations pour une paix transitoire pour, vous voyez ce que je veux dire, c'est la bataille des Ardennes, quoi. On gagne ou on perd, quoi.
Oui, effectivement, parce que pour refaire un peu l'histoire, alors ça, à chaque fois, je sais jamais si c'est, comment dire, un coup de bonneteau de Donald Trump pour gagner du temps ou si c'est vraiment ce qu'il essayait de faire. Ils étaient en discussion, et il y a une ligne de discussion directe entre Washington et Téhéran qui était ouverte par rapport à un accord sur le nucléaire dernièrement. On n'est pas parvenu à un accord. C'était plus ou moins prévisible, j'ai l'impression. Juste après ce week-end, qui a été quand même assez actif en termes d'activité militaire, Donald Trump a dit on va encore continuer à discuter, etc. Et Téhéran, de son côté, a dit non, on discute plus, maintenant on se casse tête jusqu'au bout.
Le vrai problème, c'est à Téhéran, on dit on discute plus. Mais il n'y a plus personne qui soit légitime pour dire ça, puisque s'il y en avait qu'un qui était légitime, donc il y a quelqu'un à Téhéran qui a dit non, on discute plus, mais...
Oui. C'est ça. Maintenant, il gouverne avec un conseil de guerre, un conseil suprême.
Mais, c'est celui qui aura le plus gros pistolet qui gagnera, quoi.
Oui.
Et qui fera tuer les autres le plus rapidement. Donc, on voit bien que maintenant, il va y avoir quand même un problème de légitimité qui va se poser en Iran. C'est... Qui es-tu pour me donner des ordres, quoi.
Ouais. Et alors la grande inconnue, c'est un peu qu'est-ce qui va se passer si l'intensité continue, voire même augmente, parce que il y a le point de vue militaire et puis il y a le point de vue diplomatique, parce que déjà d'un point de vue militaire, on sait que dans la zone, on manque un peu de munitions anti-aériennes. C'est-à-dire que les Iraniens ont un peu plus de 2000 missiles, en tout cas avaient plus de 2000 missiles au début de cette guerre. Entre 5000 et 10 000 drones, d'après les chiffres que j'ai pu voir. Bon, ils en ont perdu un certain nombre, déjà parce qu'ils en ont lancé un certain nombre, et puis parce qu'ils perdent aussi des stocks qui se font eux-mêmes bombarder. Mais enfin, ils en ont quand même pas mal. Et de l'autre côté, je lis à droite à gauche que Israël aurait à peu près entre 5 et 10 jours de munitions avec le rythme actuel pour tenir. Et il y a d'autres pays aussi du coin, notamment par exemple Bahreïn, qui n'a pas autant de missiles que
les autres. Mais ils s'attendaient pas à être bombardés.
Et qui s'attendaient pas forcément à être bombardés. En plus de ça, pas bombardés uniquement sur des sites militaires, mais aussi sur des sites civils. On pense notamment aux hôtels, aux infrastructures pétrolières, aux oléoducs,
aussi, etc. Là, ils ont bombardé en Arabie Saoudite la plus grosse raffinerie qui fait 500 000 barils par jour. Et donc, si celle-là saute, on va avoir des problèmes dans le monde entier pour avoir de l'essence. Hein.
C'est clair. Et ça, c'est quand même beaucoup plus difficile à défendre que des bases militaires qui sont quand même assez petites, où il y a déjà de l'équipement sur place. Défendre des infrastructures civiles, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et alors après, de l'autre côté...
Non, mais maintenant, il faut bien se convaincre d'un truc, c'est un truc où on va aux extrêmes. Donc maintenant, si j'ose dire, c'est la lutte finale, pour parler comme l'international.
Et en plus de ça, à cause de ce problème de munitions, on est vraiment dans une course contre la montre, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas, les Américains et les Israéliens ne peuvent pas, et même les pays arabes, être dans une posture uniquement défensive. S'ils sont dans une posture défensive, ils sont morts. Ils doivent être le plus offensif possible
sauter les stocks de munitions des copains.
C'est
ça. Pour que les copains manquent de munitions avant eux, quoi.
C'est ça.
Mais ça, ils ont la suprématie aérienne, donc ça va peut-être être plus facile.
Oui, sans doute.
Donc voilà où on est. Et on va voir ce qui se passe. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que cette espèce d'hypothèque terroriste au Moyen-Orient qui régnait depuis les années 70, où ils vont gagner, ces terroristes, bien sûr, là, on est mal barrés tous, ou ils vont perdre. Et à ce moment-là, bon, c'est les... C'est-à-dire que ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que j'ai été avec des Iraniens qui m'expliquaient tous qu'il n'y avait plus tellement de différence entre les chiites et les sunnites.
Oui, là, il y en a quelques-unes tout de même.
Parce que s'il y a un truc qui a surpris tout le monde, c'est qu'ils bombardent, par exemple, l'Arabie Saoudite. Parce que,
Oui. Alors, il y a un pays en particulier qu'ils se gardent très bien de bombarder, c'est la Turquie.
Oui, bah ça, bah c'est loin. Hein.
C'est un peu plus loin, mais enfin, ils ont visé Chypre tout de même. On
Ils ont
se dire
visé Chypre,
Chypre,
mais du
qu'est-ce que.
côté. Parce qu'il y a des bases anglaises. Hein.
Oui.
Il y a des bases anglaises. Hein. Remarquez, il y a des bases américaines en Turquie, mais c'est quand même très loin. Et puis, personne n'attaque les Turcs du
Oui.
Moyen-Orient, parce qu'il ne faut pas rigoler, quoi. C'est pas
Oui.
les... Ils vont pas s'amuser, ça ne va pas les amuser.
Ouais.
Donc, on arrive un peu au dénouement, en quelque sorte. Ça peut
C'est-à-dire là,
être
il y
le
aura.
crépuscule des dieux, quoi.
Ouais, là,
C'est...
on n'aura pas de juste milieu, quoi, à l'issue de
Non,
ce
il y en aura
truc-là.
un
C'est
gagnant.
vraiment, il y aura un gagnant, un
C'est
perdant.
fini le coup il y a des guerres qui se passent et puis on arrête. Qu'il y en a un des deux qui est en train de gagner, on l'arrête parce que, n'est-ce pas, il faut pas quand même exagérer. Là, c'est fini. Le temps des diplomaties est passé. Maintenant, c'est là.
Ouais. Alors il y a quelque chose qui fait quand même peur à beaucoup de gens, et d'ailleurs à raison quand on voit l'historique des interventions américaines, c'est le côté changement de régime. C'est-à-dire que bien sûr il y a des manifestants avec lesquels on est tout à fait en accord d'un point de vue moral, beaucoup plus qu'avec le régime des Mollahs. Cependant, c'est un régime qui est quand même extrêmement solide, extrêmement puissant, avec
Bon, c'est ce
125 000.
qu'on dit des régimes tyranniques, et puis on sait, en fait, en général, ils s'écroulent en 30 secondes. Hein.
Oui, mais je trouve que ce qui manque, c'est de signaux, alors peut-être que ça va venir, mais de signaux déjà de faiblesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de désertion dans l'armée, il n'y a pas non plus de milices organisées dans la population.
Et ben, ils peuvent pas, ils ont pas d'armes. La milice organisée, ils se sont fait tuer comme des lapins il y a deux
Oui.
mois, donc...
Oui, mais je veux dire, on a vu des milices, par exemple, en Syrie, où le régime était quand même beaucoup
Oui,
plus
mais
fragile.
c'était...
Et il a quand même tenu assez longtemps, d'ailleurs. Comment dire, c'est ce qui pourrait se passer, c'est que le régime finalement perde sur le plan militaire, mais conserve quand même une assise dans une partie
Et
du
puis il y a aussi autre
territoire et se
chose,
replie.
oui, c'est possible, ce qui est possible aussi, c'est un fractionnement de l'Iran, parce que vous
Oui.
avez la moitié de l'Iran qui sont
Des Azéris,
des Azéris,
oui.
puis il y en a d'autres qui sont là-bas aussi, qui sont un peu des Tartares et tout. Donc
Oui, et on peut imaginer que Erdogan serait content de récupérer une petite partie
Non,
au nord-ouest.
peut-être l'Azerbaïdjan plutôt, parce que
Oui, l'Azerbaïdjan aussi.
parce que c'est leurs copains qui sont là, quoi. D'ailleurs, je suis pas sûr. Attendez, je suis pas sûr, mais je crois bien que les Azerbaïdjanais sont. Je sais plus s'ils sont sunnites ou chiites. Tiens, faudrait que je regarde.
Si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont chiites, hein, il me semble.
Et donc ils n'auraient pas de raison de rejoindre Erdogan, quoi. Si vous voulez, l'idée de base, c'est ça. La deuxième idée, c'est de dire, bon, si on regarde ce qui se passe, ils ont fermé le détroit d'Ormuz, là. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a peut-être une préparation un peu hâtive. C'est que pour fermer le détroit d'Ormuz, les Iraniens doivent mettre des mines.
Oui.
C'est à peu près la chose la plus utile.
Oui.
Ils ont de quoi mettre des mines. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas envoyé un seul bateau des mineurs. Les Américains sont arrivés avec toutes les armadas, mais il n'y a pas de bateau des mineurs.
Oui.
Alors, ils n'avaient pas pensé qu'ils pouvaient mettre des mines, mais je veux dire, la première des choses qu'il faudrait, c'est deux ou trois bateaux des mineurs
Oui.
qui passeraient et
Oui, sans, bien sûr.
qui laisseraient passer au moins les trucs de pétrole. Donc, il va falloir envoyer des bateaux des mineurs. Mais quand vous regardez les chiffres, ce qu'on a fait ce matin avec Emmanuel, vous avez à peu près un an de réserve pétrolière dans le monde.
Ouais.
Donc, ça veut dire que, bon, il y a des pays qui ont des difficultés, mais pas trop. Mais là où il risque d'avoir un gros problème, c'est le gaz.
Ouais.
C'est le gaz où...
Bah d'ailleurs, c'est le gaz qui a monté le plus vite, hein,
Ouais,
50% en une séance.
mais là, il risque de quadrupler, oui, parce que...
Ouais.
Si vous voulez, des pays comme, bon, la Chine a un an de réserve de gaz, parce qu'ils sont toujours prudents, mais...
Et puis la Chine importe moins depuis cette zone aussi.
Elle importe moins depuis cette zone, et puis surtout, elle a fait des réserves de gaz très importantes, alors que Taïwan n'a que 3 mois, l'Europe n'a que 3 mois. Donc, on voit bien que... Et ce qui est très embêtant, c'est que vous pouvez essayer de faire passer des pétroliers... Parce que si vous faites sauter le pétrolier, c'est très inerte, si vous voulez, ça saute pas, quoi. Ça fait une grosse marée noire. Bon, ben, c'est dommage pour les plages locales, mais enfin, c'est pas un...
Ouais.
Mais par contre, vous faites passer un méthanier, s'il reçoit lui, il fait une très jolie explosion.
Oui,
Donc,
c'est pas la même.
vous pouvez... Vous pouvez dire à des hôpitaux, à des marins, je vais vous copréhier 3 ou 4 fois, et puis on va voir si vous passez. Ils essayent de passer à 4 ou 5, ça peut marcher, mais avec un métanier, personne n'ira sur le métanier parce que tout le monde sait qu'il va sauter.
Bien sûr. De toute façon, les armateurs, les CMA, CGM, Maersk, etc., ils n'ont pas envie de prendre le risque. Hein,
non, mais vous pourriez avoir dans ces cas-là, quand le risque est suffisamment rémunéré, vous pouvez avoir quelques pirates qui essayent de s'y coller, quoi.
Effectivement, oui.
Donc, ça veut dire que la possibilité d'un choc exogène pétrolier sur l'économie ou gazier sur l'économie mondiale n'est pas zéro, quoi.
Oui, c'est clair. Alors, faut être clair sur un truc, c'est que c'est pas forcément très grave si ça dure pas longtemps.
Bah, si ça dure moins de 3 mois.
Voilà.
Mais si le blocage.
D'ailleurs, c'est pour ça, Trump répète en permanence, il dit, il a un objectif de 4 semaines. Il dit 4 semaines. À la limite 5 semaines, mais normalement pas plus, quoi.
Oui, j'en reviens, mais ça, si vous voulez, je connais pas un type qui n'a pas commencé une guerre avec un objectif d'avoir terminé en
amont. Rapidement, oui.
Mais en général, 4 ans après, vous y êtes encore, voire 10 ans après, quoi, comme les Américains en Afghanistan, qui en sont partis. Alors, il y a des pays qui sont très vulnérables, par exemple au gaz, c'est le Pakistan.
Oui.
Alors, l'Inde.
Oui, l'Inde. L'Inde, c'est même sur les deux plans, parce que l'Inde, c'est aussi sur le pétrole et aussi sur le gaz.
Donc, vous pouvez avoir des problèmes dans ces pays-là. Puis alors, c'est pas une bonne idée d'avoir des problèmes en Inde et en Pakistan au même moment, parce que c'est bien.
En plus de ça, la zone est déjà un peu écarlate, parce qu'il y a aussi des échanges de tirs entre le Pakistan et l'Afghanistan.
Ils sont déjà en guerre contre l'Afghanistan. Donc, tout ça, c'est... Pour être parfaitement clair, vous et moi, on n'y peut rien.
Ah non, ça c'est clair. Non, c'est...
On peut l'analyser.
Peut juger que c'est bien ou que c'est
on
mal.
On peut juger que c'est bien ou c'est mal, mais ça ne changera rien au public. Hein, ça, tout le monde s'en fout, ce que vous pensez. Vous connaissez l'histoire de Rubinstein, qui était un pianiste absolument prodigieux, qui était invité chez une dame à jouer. Et puis là, il joue. Et puis là, la dame vient le voir et dit « Maître, je n'aime pas du tout Beethoven. » Et Rubinstein lui dit « Madame, ça n'a aucune importance. » Donc, si vous voyez ce qu'on peut dire là-dessus, c'est intéressant, ça va peut-être intéresser les gens qui nous écoutent. Mais la question que chacun doit se poser, c'est « Si ça tourne mal, comment je dois me protéger ?»
Oui.
C'est ça la question. Oui. Ça, vous pouvez y faire quelque chose.
Oui. Ça permet de faire peut-être 5 petites minutes de réclame bien justifiée pour l'Université de l'Épargne.
Oui.
Parce que quand même, faut dire que dans notre portefeuille, nous avions, et nous avons toujours d'ailleurs, un quart
un peu plus du quart,
d'énergie. Ouais. Alors, au début de l'année, c'était un quart. Par glissement naturel, les ETF énergie ont fait entre 20 et 35% de performance depuis. Donc forcément, maintenant, c'est un peu plus d'un quart. C'est plus,
c'est-à-dire qu'une fois de plus... Il se passe ce que j'ai vu passer 10 fois dans ma carrière, c'est-à-dire que vous pouvez prendre des grands coups sous la ligne de flottaison de vos portefeuilles, soit parce qu'il se passe un truc sur les taux d'intérêt qui d'un seul coup montent, sont extraordinaires, donc à ce moment-là, soit parce qu'il se passe un truc extraordinaire sur l'énergie. Donc moi, quand on a bâti les portefeuilles ensemble, je dis il faut avoir 25% d'énergie parce qu'on ne sait jamais, c'est toujours par là qu'on prend la... Et comme ça paye 4-5%, je me suis dit, c'est comme si on avait une obligation de bonne qualité. Quoi. Ouais. Mais en plus, ça nous a aidé. Donc, l'idée, encore une fois, c'est pas de se concentrer sur le côté moral. Israël, c'est des ordures, ou c'est des victimes, ou le Khamenei, il devrait avoir eu le prix Nobel de la paix parce que c'était un saint homme. Donc, vous voyez, il y a ce que pense M. Besancenot. Pas M. Mélenchon. Bon. Tout ça, ça mène nulle part. Mais par contre, avoir un portefeuille qui est bien constitué pour résister à ce genre de trucs, ça, c'est utile.
Oui.
C'est très pragmatique, mais c'est très utile.
Je peux vous dire que nos abonnés sont très contents d'avoir leur portefeuille, parce que moi-même, je ne m'y attends pas, je ne m'y attendais pas.
Moi non plus.
On a carrément.
Mais je savais que ça pouvait se produire.
Oui, non, c'est sûr. On s'attendait à ce qu'on prenne moins cher que le reste.
Oui.
Au final, non seulement on a pris moins cher, évidemment, mais en plus de ça, on a carrément progressé.
Le portefeuille est en croissance.
Ce qui était presque inattendu, quoi. Donc, non. Franchement, c'était un bon mouvement de notre part, quoi.
Oui, absolument. Mais ça veut dire, j'attire l'attention des gens là-dessus, c'est encore une fois, il y a la trappe intellectuelle qui est de dire c'est un scandale, qu'est-ce que fait le gouvernement, à quoi sert Dieu, enfin vous voyez des questions essentielles quoi. et à laquelle la plupart des gens succombent. Et la vraie question, c'est, bon, il se passe des trucs avec lesquels je trouve pas que ce soit une bonne nouvelle ni rien, mais mon boulot, c'est pas de passer un jugement de valeur, c'est de m'adapter et d'adapter mon épargne. Et c'est ça qui compte, c'est que vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas une petite, un petit bouchon flottant sur l'eau et que comme ça, c'est que vous avez une prise sur le futur par l'intermédiaire de votre épargne. Et ça, c'est essentiel.
C'est sûr que oui, vous pouvez faire des choix individuels pour vous sauver de certaines situations. Et bon, c'est plutôt ce qu'on a bien fait dans notre cas. Donc oui, effectivement, là, à chaque fois, je précise que le lien pour s'inscrire sur l'Université de l'Épargne est dans la description, à chaque fois, sous toutes les vidéos. Donc oui, ce problème du détroit d'Ormuz, ça va être compliqué si ça reste longtemps. Alors il y a des pays voilà qui vont être très impactés, notamment l'Inde, le Pakistan, le Japon aussi à cause du pétrole.
Il y a un pays qui va être très favorisé, c'est la Russie.
Oui. Et puis les États-Unis aussi pour les exportations de gaz et la Russie pour les exportations de gaz et de pétrole.
Et de pétrole et de charbon et de.
Ouais.
Parce que si vous voulez maintenant bon. Vous avez coupé les exportations de gaz de Russie, c'est bien triste, mon pauvre monsieur. Maintenant, elles sont coupées à partir du Golfe. Attendez une seconde, moi j'ai besoin de gaz.
Oui.
Donc, je peux rien faire pour le Golfe. Je peux peut-être aller discuter avec la Russie, voir s'ils pourraient pas m'enfiler un peu. Quoi.
Oui, effectivement, si le prix du gaz est multiplié par deux, on va voir si les Allemands vont pas toquer à la porte de Moscou pour demander.
Alors, ils trouveront des aménagements. Ils feront acheter le gaz par les Hongrois, puis ils l'achèteront derrière.
Ouais, ça va être dire, ça, oui.
Ça va devenir du gaz hongrois.
Exactement. Oui.
Mais Hongrois, on gagne, et puis on perd. C'est toujours pareil. Mais faut faire attention, parce que là, dans ces cas-là, la créativité, c'est comme le pétrole indien qui allait, le pétrole russe qui allait en Inde, qui devenait du pétrole indien, ils en ont pas, et qui le vendaient ensuite à l'Europe, quoi.
Oui.
À deux fois le prix.
Oui.
Donc, monsieur le maire, il a fait la fortune des raffineries indiennes.
Oui, c'est ça, qui n'avait pas beaucoup de valeur ajoutée à la base, mais...
Ah, d'un seul coup, elle tournerait une considérable.
C'est ça, c'est artificialisation de la valeur ajoutée, en quelque sorte.
C'est-à-dire qu'on voit bien que toutes ces décisions que prennent ces gouvernements, de restrictions de ceci, de pénalités de cela, etc., finalement, ça rentre dans un monde où la probabilité d'une catastrophe augmente de façon vertigineuse.
Oui.
Parce qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de marché, quoi.
Ouais. Et alors, sur cette question-là aussi, j'ai vu à droite à gauche que la Chine serait en difficulté. Alors, j'ai essayé d'étudier la question et vite fait, mais pas tant que ça. C'est un peu ma réponse finale. Parce que la Chine importe alors à elle seule 10 millions de barils par jour. 40% à peu près de ce volume transite par le détroit d'Ormuz, ce qui est beaucoup. Alors, cependant, elle ne serait pas impactée tout de suite, déjà parce qu'elle a bâti une grande réserve stratégique. Hein, elle a plus d'un milliard de barils.
Elle a une année de barils.
Voilà, 1,3 milliard selon certaines sources. Donc, ça équivaut, si jamais vos importations vont à zéro, ça équivaut à 100 jours de consommation normale sans aucune importation. Et les Chinois peuvent donc tenir 300 jours sans aucun problème, sans les importations du pays du Golfe. Donc ces importations, même en cas de fermeture complète du détroit d'Ormuz, ne seraient pas intégralement suspendues d'ailleurs. Elles prendraient juste beaucoup plus de temps, notamment en passant par le Cap de Bonne-Espérance. Parce que oui, on a aussi cette autre possibilité, mais qui est un peu annulée en ce moment, c'est de passer par la mer Rouge.
Oui.
Sauf qu'il y a les outils qui ont repris le travail, quoi.
Sauf que là, peut-être, on verra, ça, c'est le outil, on pourra peut-être les convaincre grâce à quelques versements faits à Dubaï ou je sais pas où, oui, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont sensibles aux arguments sonnants et trébuchants. Quoi.
Alors ça oui, et puis surtout après s'ils sont s'ils voient que leurs copains iraniens
ils
ça
disent
se passe
c'est le moment
bien
jamais.
Pour eux, effectivement ils pourraient
mais
se
mais si
se
c'est des pays par les Iraniens, les pauvres, il faut bien que
ouais, il faut bien qu'ils mangent quand même.
Il faut
ils
bien
ont
qu'ils
soient payés
par quelqu'un. Quoi. Ouais. On ne va pas les forcer à travailler quand même.
Tout à fait. Et alors, il y a un thème qu'on a beaucoup évoqué sur cette chaîne, notamment dans le cadre de la guerre en Ukraine, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est dans une guerre de drones.
Mmh.
Et on a beaucoup discuté du fait que la nouvelle mode, en tout cas ce qui est vraiment le plus efficace et le plus utilisé sur le front, c'est plutôt que les drones américains qui coûtent des millions et des millions, c'est la masse. Et
Tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup.
voilà, c'est-à-dire qu'il y a, il y a deux doctrines. En gros, c'est la doctrine américaine à la base, c'est ce qu'on appelle la exquisite plateforme, et la doctrine russo-ukrainienne, en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle la affordable mass. Donc, c'est plutôt les Russes qui avaient commencé là-dessus, avec d'ailleurs plein de drones qui étaient eux-mêmes bâtis par les Iraniens. C'est le fameux drone Shahed 136, qui est vraiment un drone kamikaze de bonne qualité, hein, qui coûte à peu près entre 20 et 50 000 dollars l'unité. Et les Américains se sont mis à faire leur propre version, qui d'ailleurs a été bâtie à partir du Shahed 136. C'est-à-dire qu'ils ont fait du reverse engineering, et maintenant ils ont ce drone à 35 000 dollars l'unité. Ils en produisent des centaines maintenant par mois. Donc ils ont vraiment une très bonne capacité de production, beaucoup plus que les Hellfire ou les Tomahawk par exemple. Portée opérationnelle autour de 800 km, charge utile de 18 kg d'explosifs, endurance de 6 heures à une vitesse de croisière de 137 km/h, et ça c'est le plus intéressant, intégration native avec le réseau Starlink. Et grâce à ça, grâce à cette liaison satellitaire, l'opérateur va garder le contrôle du drone, même en cas de brouillage en phase. Donc si la ligne de vue elle est rompue, dans un environnement électromagnétique saturé ou brouillé, vous allez garder le guidage du drone, ce qui est quand même extraordinairement important. Et ça va être un gros problème, à mon avis, pour les Iraniens. Donc je trouve ça intéressant que les Américains soient quand même adaptés à cette nouvelle forme de guerre, parce que leurs trucs qui sont des merveilles d'ingénierie, c'est très sympa.
L'avion à
Enfin
250
bon.
millions de dollars, c'est pas très utile.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en plus de ça, s'il revient pas sur le pas de tir, va falloir l'expliquer à quelqu'un et ça va pas être agréable du tout.
Putain, 250 millions. Puis en plus, je ne sais pas si c'est vrai, mais ces avions, c'est le F-35, je crois. Il peut pas voler quand il pleut.
Non, mais alors ça, je crois que c'est pas vrai. Mais
On m'avait dit que les essuie-glaces marchaient pas. Je sais pas si c'est vrai. Hein.
Peut-être. Je vais essayer de creuser la question. Je vais voir, quelle est votre source.
Moi, vous savez, il y a toute une série de gens qui suivent les programmes étatiques idiots. Et donc, ça avait été que je suis avec beaucoup de bonheur parce que c'est presque une confirmation, un programme étatique idiot, mais c'est une redondance.
Ouais.
Il y en a quand même un paquet, quoi.
Ouais, non, mais ils ont des équipements qui coûtent des millions de dollars et qui ont des défauts, hein. Mais c'est vrai qu'au moins, là, c'est intéressant. Du coup, ils ont fait cette bascule il y a quelques mois. Et en plus de ça, l'intégration avec Starlink est quand même assez intéressante parce que bah, c'est une nouveauté d'un point de vue tactique, parce que la principale arme contre les drones, c'est quand même les brouilleurs. Et là, ça marche pas avec ce truc-là.
Bien.
Alors, il y a aussi parfois des drones qui se téléguident automatiquement par intelligence artificielle, il y a aussi ça. Mais c'est quand
Ils
même.
mémorisent la carte du sol, oui.
Voilà, c'est ça. Mais c'est quand même sympa d'avoir le conducteur de drone avec sa manette
Oui,
qui
ça
sait
me
où il va.
rappelle les jours où il jouait que sur ces petites machines quand il
Oui.
avait 12 ans.
Ouais, et c'est plus facile de s'entraîner hein, avec ces trucs-là aussi. Et d'ailleurs, maintenant, c'est une spécialité au sein de l'armée. C'est-à-dire que nous, typiquement, on n'a pas vraiment formé énormément de gens dans nos armées
Bon,
occidentales
ils n'ont
là-dessus.
qu'à aller dans n'importe quelle école en sixième, ils trouveront tout ce qu'ils veulent, là, les gars qui tuent
Oui,
des...
mais maintenant, par exemple, bah, c'est une spécialité des Ukrainiens. Les Ukrainiens sont très très forts sur la conduite de drones. Forcément, ils n'ont pas trop
Ils
d'autres
n'ont pas
options.
d'autres...
Mais bon, les Russes, évidemment, sont très forts aussi. Mais ça va devenir vraiment un
Moi,
département
je
très
fais une
important, quoi.
proposition comme ça pour que la paix règne dans le monde, qui est mon objectif principal. C'est qu'on devrait mettre les armées quand il y a une guerre quelque part en face à face au Sahara, par exemple, et avec des drones, puis on se fait se battre les drones, puis on voit qui gagne.
Oui, mais à la fin, on va en avoir un qui va pas être très content d'avoir perdu. Il va quand même envahir l'autre pays pendant qu'ils ont
Non,
deux
mais c'est un
tournées.
mauvais joueur celui-là. C'est
Ah oui,
faudra le dénoncer aux Nations Unies, mais
mais
je
l'histoire
trouve
est
que ce
remplie de
serait.
mauvais joueurs.
Oui, surtout de risques
La
ingénieurs.
meilleure manière pour gagner un jeu, c'est de tricher, de toute façon.
Oui, ça c'est pas faux ça. C'est pas faux ça. Vous n'êtes pas sportif, vous. Hein.
Non.
Il
Non, alors,
préfère gagner.
justement, non, je déteste tricher, mais c'est extrêmement frustrant. C'est d'autant plus frustrant de perdre face à quelqu'un qui triche. C'est beaucoup plus frustrant que de perdre face à quelqu'un qui respecte les règles du jeu.
Voilà, vous savez, c'est ce que disait McEnroe, qui était un très bon joueur de tennis. Il disait: montrez-moi un bon perdant, et je vous montrerai un perdant.
Pas mal. Et alors aussi politiquement, il faut dire que Trump, il a des comptes à rendre. Il y a des midterms à la
Voilà.
fin de l'année
Alors ça
2026.
m'intéresse beaucoup. Tout le monde me dit qu'il est en train de devenir très impopulaire, ce qui est possible. Mais quand vous regardez les cinglés qu'il y a de l'autre côté, les démocrates, Vous vous dites qu'ils sont, à mon avis, ils sont encore plus impopulaires. Ils sont complètement fada. Donc, je ne sais pas trop. Vous allez vous retrouver vraiment avec une abstention record, je pense, non ?
C'est très possible. Je pense que ce serait pas du tout étonnant. Effectivement, les démocrates n'arrivent pas du tout à fédérer autour d'une figure de référence. Il y a personne. Le gros démocrate qui est un peu poussé en avant, c'est le gouverneur de Californie.
Qui est un cornéo, vraisemblable.
Qui est un personnage en fait qui est très étrange. Hein. Il a, je sais pas, il a une manière de d'être qui est assez étrange.
Il est très beau, toujours bien coiffé et tout, ouais. Et tout. Mais la dernière fois qu'il a lu un livre, c'était, oui. Je sais pas, Mr. Potato, tu vois, quand on lit qu'on avait 3 ans. Donc vraiment, il a l'air d'un crétin, quoi.
Oui, et là, un de ses derniers faits d'armes, c'est d'avoir dit sur une estrade, il était en train de parler, et en quelque sorte, très traditionnel chez les démocrates depuis quelques années, dès qu'ils veulent s'adresser à l'électorat noir, ils font exprès d'avoir l'air moins intelligents qu'ils ne le sont.
Et ce qui est dur.
Ce qui est
extrêmement difficile.
Alors c'est sûr, si on creuse déjà au fond d'un trou, il ne va plus rester grand-chose.
Au fond d'un trou, il y a toujours une pelle. Hein. Ça, il faut le savoir.
Oui, ça c'est vrai. Mais par conséquent, je ne crois pas que ce soit quelque chose qui ait été très bien reçu.
Ils parlent comme s'ils étaient des débiles, d'abord. Oui. Et la deuxième chose, c'est qu'ils prennent l'accent noir.
Oui.
Alors là, ça les rend absolument ivres de rage, les pauvres noirs.
Ouais, ouais. Non, en fait, ça, même en dehors de la communauté, de la communauté afro-américaine, je crois que c'est très mauvais pour eux parce que ça montre qu'il n'y a aucune authenticité.
Non.
Chez eux. Trump, il a plein de défauts, mais au moins, c'est un type vraiment authentique, quoi. Il n'a pas honte d'être lui-même. Là, on a l'impression que c'est un peu un type qui va essayer de s'adapter.
Il est même assez content d'être lui-même.
Oui, je pense qu'il est assez satisfait de sa propre personne. Il a un ego, à mon avis, surdimensionné, mais au moins, on sait qui il est, on sait que lui-même sait qui il est. Et par conséquent, oui, c'est un peu comme d'ailleurs quand Joe Biden avait dit aux Noirs que s'ils votaient pas pour lui, ils étaient pas Noirs, quoi. C'est, voilà. C'est un peu cette espèce de condescendance de je vous ai dans la poche, je sais comment vous parler, etc. Comment vous entubez. À mon avis,
et on peut pas dire que les Noirs a été très favorisé par quand les démocrates étaient au pouvoir, quoi. On a refilé plein de subventions, mais ça a foutu en l'air la famille noire. Enfin bref,
c'est un électorat avant tout très abstentionniste. Hein, c'est
d'abord très abstentionniste parce qu'ils se reconnaissent dans personne. Donc, oui, c'est ce qui va se passer si ça continue. Ça finira par nous arriver aussi à nous. C'est qu'il y aura un personnage du style de Musk qui créera un troisième parti et qui dira, bah, écoutez, c'est les deux, ils sont complètement corrompus, ils sont tous les deux. Hein. Donc on risque de voir arriver un troisième parti, un peu ce qu'a fait Farage en Angleterre.
Oui, alors ce serait pas tout à fait impossible, effectivement. Alors cependant, Musk lui-même pourrait pas se présenter parce qu'il n'est pas né citoyen américain.
À la présidence, mais il peut se présenter au Sénat.
Oui.
Ou à la Chambre des représentants.
Ça, oui, effectivement.
Il peut représenter. À la présidence, il peut pas.
Oui.
Et donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que encore une fois, on retrouve la même chose qu'on retrouve dans nos pays, en Angleterre, en France, en Allemagne. C'est l'espèce d'extraordinaire effondrement de la démocratie représentative.
Tout à fait.
C'est-à-dire, il n'y a plus personne qui vous représente. Vous avez des fous qui représentent l'extrême gauche, les Mélenchon chez nous. De l'autre côté, des gars qui disent qu'ils sont de droite, mais la dernière fois qu'ils sont de droite, quand même. Hein. Ils sont pour les nationalisations, pour un État stratège et tout. Donc, vous dites help. Au secours. Et donc, aujourd'hui, vous êtes représenté en tant que citoyen que par des gars que vous méprisez. Et quand ils sont pas, que vous les méprisez pas, ils sont corrompus. Et en plus, ils vont faire des trucs abominables avec des enfants dans des îles. Et donc vous dites, mais qu'est-ce que c'est histoire de fou, quoi. Vous dites, mais qui sont ces gens qui me représentent? Comment sont-ils arrivés là? Comment ont-ils été sélectionnés? Vous pouvez pas vous empêcher de penser quand vous voyez le personnage politique français, mais vous dites, mais. Si j'ose dire, quels sont les obstacles qu'ils ont dû sauter pour arriver là, quoi. Non ? Donc pour moi, c'est ça l'extraordinaire, c'est cette classe dirigeante nous méprise, mais ils sont beaucoup plus cons que nous, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Autrefois, si j'ai été méprisé par Alain Perfit ou par, Malraux, je me disais, ils ont fait des trucs quand même. Hein,
oui.
Ou par De Gaulle, oui. Bon. Mais là, être méprisé par un imbécile, Je vois pas où est le plaisir.
Ouais, on a l'impression effectivement qu'on a une classe d'incompétents qui eux-mêmes essayent de s'entourer d'incompétents pour avoir l'air moins incompétents que les autres incompétents.
Et comme et ça, ils se parlent entre eux et tout le monde dit que non, vous n'êtes pas aussi incompétent que vous le pensez, monsieur le ministre. Mais si, vous l'êtes beaucoup plus.
Ouais.
Donc, il y a une série de crétins qui sont entourés de crétins. Et la seule caractéristique qui les unit tous, c'est qu'ils sont tous corrompus. Mmh. Donc vous dites, c'est quand même un peu embêtant dans notre démocratie, non?
Oui. Mais alors, je me dis quand même, est-ce que cette intervention en Iran, c'est pas un petit peu risqué pour Donald Trump par rapport à sa base électorale? J'ai vu dans certains sondages que c'était entre un quart et un tiers seulement des Américains qui soutenaient cette opération en Iran.
Ça dépend s'il réussit ou s'il échoue.
Ouais, et ça dépend aussi de la rapidité,
du bilan humain, etc. Ça dépend, mais s'il réussit à... Vous savez, c'est comme le film d'OSS 117, aller me pacifier le Moyen-Orient. Oui. S'il réussit à pacifier le Moyen-Orient, ben les gens vont dire, bon, ben... Pff. Et à ce moment-là, il pourra... Le paradoxe, c'est qu'une fois que l'Iran sera plus là, ben, il pourra évacuer une partie importante des forces américaines du Moyen-Orient.
Oui.
C'est-à-dire les ramener à la maison, quoi. C'est... Parce que tant que l'Iran est là, c'est même les, si j'ose dire, les Saoudiens et tout, ils sont pas très contents si les Américains s'en vont, quoi.
Ouais.
Donc ça permettrait une démilitarisation, aller un peu du Moyen-Orient, ce qui serait pas plus mal.
Ouais.
Mais vous savez, gouverner, c'est pas choisir entre une bonne et une mauvaise solution, c'est choisir entre deux mauvaises.
Ouais.
Donc la mauvaise solution numéro un, c'était de continuer à ce que l'Iran continue à faire n'importe quoi. Pour Trump. Hein. Et la solution numéro deux, c'est de s'en débarrasser. Bon, il a choisi la solution numéro deux. Bah,
ouais.
On va voir, hein. Je sais pas.
Alors, est-ce que c'est pas aussi un peu contradictoire avec l'idée de la forteresse américaine?
Ah ben non, parce qu'à partir du moment où l'Iran sera plus là, ben, vous pourrez avoir des accords... Je sais pas, avec l'Arabie Saoudite et tout, mais vous avez plus besoin d'avoir trois de vos porte-avions dans la région, quoi.
Oui.
Vous pouvez les ramener à la maison parce que y aura pas de, il y a pas de danger existentiel qui se passera là. C'est, vous avez pas besoin d'avoir 42 porte-avions dans la Méditerranée, quoi. C'est... Donc on peut penser, si je devais réfléchir à haute voix, je dirais, s'il veut faire baisser les dépenses militaires structurellement. Ce qu'il n'a pas fait jusqu'ici, parce que peut-être il ne pouvait pas.
Ouais.
Ben, c'est peut-être simplement l'idée, c'est d'arriver doucement à justement à débarrasser de l'Iran, et à ce moment-là, à aller vers une solution, que ça devienne une zone de paix. Donc à ce moment-là, on peut faire baisser la. Je ne sais pas, je ne dis pas que c'est ça son but, mais c'est. L'erreur qu'il faut faire, c'est de penser que le gars qui nous gouverne est intelligent, erreur numéro un, ou qu'il est bête comme un âne, erreur numéro deux. Or, tout le monde en France fait l'erreur, Trump est un gros crétin. Peut-être, mais bon, il a peut-être, il voit peut-être plus d'un coup à l'avance, quoi.
Oui.
Je ne sais pas.
Ouais. Non, surtout, j'ai vu cette analyse, je ne sais plus qui avait dit ça sur Twitter, que Trump aimait bien souvent donner tort aux experts, mais qu'un jour, vous verrez, il se trompera véritablement.
Mais...
C'est une analyse un peu bas de plafond quand même.
Oui, un peu bas de plafond. Ça me rappelle quand j'étais au début de la banque, la banque de Suez, je faisais un peu le même métier, je commençais. Et puis il y a des gens qui disaient, vous savez Charles, un jour il va se tromper, hein, donc il ne faut pas lui faire confiance, parce qu'un jour il va se tromper.
Il n'arrête pas d'avoir raison tout le temps, mais vous verrez un jour...
Donc surtout vous ne le suivez pas. Ouais, c'est une idée intéressante. Donc ce gars-là, il est compétent, il travaille, il amène des résultats intéressants, mais il ne faut pas le suivre, parce qu'un jour il se trompera.
Ouais.
Ça c'est le à quoi bon qui tue tout. Dès que vous entendez quelqu'un comme ça, vous le... considéré comme quelqu'un que vous voulez pas vraiment avoir comme ami.
Quoi. J'ai envie de dire, s'il se trompe qu'un seul jour, on va le suivre quand même. Hein.
On va le suivre quand même. Donc, c'est toujours la même chose, c'est que l'intelligence n'a rien à voir avec la capacité à prendre des décisions.
Oui, tout tout à fait. D'ailleurs, c'est souvent les doctrinaires qui font des, qui prennent des mauvaises décisions parce que une fois qu'ils l'apprennent, ils sont jusqu'au boutistes et ils ne veulent absolument jamais revenir en arrière.
C'est les platoniciens contre les aristotéliciens. Ouais. Les platoniciens, ils vivent dans un système qu'ils ont inventé fermé.
Ouais.
Donc, s'il y a quelque chose qui casse, ils savent plus quoi faire. Parce que l'aristotélicien, son but, c'est de regarder le monde et de s'adapter à ce qui se passe dans le monde.
C'est ça,
donc,
tout
nous,
à fait.
On est tout à fait aristotélicien.
Ouais, et Trump a l'air d'être comme ça. C'est d'ailleurs, c'est très très dur, même pour les journalistes, de lui faire tenir rigueur de propos qu'il a lui-même tenus, y compris parfois dans la journée même, parce que parfois il est tellement d'accord, enfin totalement capable de dire un truc puis le contraire dans la même journée, et de s'adapter totalement à ce qui est exigé de lui, à ce qui est nécessaire, à ce que la politique exige.
Parce que la politique, oui c'est ça, puis de temps en temps, si vous voulez, c'est pas qu'il ment. C'est comme on dit en Angleterre, dans la Chambre des communes, il est très économe avec la vérité.
C'est
moi,
ça.
J'aime beaucoup cette expression des Anglais. Je suis très économe avec la vérité.
Ouais.
Ça ressemble à un mensonge. Non, pas du tout.
Oui, ça fait partie aussi de l'art de la diplomatie. Hein.
Ben ouais.
Non, mais du coup, c'est pour ça, en fait...
Mais être imprévisible, c'est l'essentiel de la diplomatie.
Tout à fait. Je préfère quelqu'un qui est à la fois imprévisible et qui sait s'adapter à la réalité que quelqu'un qui pense avoir beaucoup trop réfléchi à quelque chose et qui est absolument sûr de son coup et qui va aller vraiment jusqu'au bout, parce que sinon, s'il a tort sur un truc, ça veut dire qu'il a tort sur absolument tout et que
le
monde va exploser.
Voilà.
Et c'est pour ça, par exemple, là, typiquement, je pense que quelqu'un comme J.D. Vance est plus intelligent et a beaucoup plus le côté esprit de système que Donald Trump. Mais en revanche, j'ai peur qu'un type comme ça, quand il prend une décision, il soit beaucoup trop sûr de son coup et qu'il soit jusqu'au bout.
Je sais qu'il arrive de très très bas, donc il a dû prendre des décisions de temps en temps où il s'est ramassé des claques et il en
oui,
est sorti.
Ça c'est sûr.
Il est pas né avec une petite cuillère d'argent dans la bouche. Hein.
Il a changé d'avis dans sa vie, donc ça peut arriver, ouais, bien sûr.
Donc pour revenir à ce qu'on essaye de vous dire, ben, on rentre dans une période où il n'est pas impossible que beaucoup de gens perdent beaucoup d'argent. En particulier,
ouais.
C'est extraordinairement ce qui se passe désastreux pour les marchés obligataires.
Oui, tout à fait. Et là, on entre effectivement dans une période où l'important, c'est pas tant de gagner de l'argent que surtout de pas en perdre.
Voilà.
Et bon, pour l'instant, on fait encore mieux. Donc...
on va réussir à gagner, mais rassurez-vous, ça va pas durer. Mais...
Ouais, c'est sûr que maintenant, tout
mais
le monde...
Mais si on perd à partir de maintenant, on perdra d'un peu plus haut, donc on perdra moins que les copains qui ont perdu déjà. Quoi.
Exactement, exactement.
Et donc, mais il faut bien se convaincre que maintenant, c'est père, garde-toi à gauche, père, garde-toi à droite. Je crains que le temps des coups soit en train d'arriver.
Oui. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on espère, c'est surtout que...
De vous guider au travers.
Voilà, de vous guider au travers.
Vous aurez des bleus, mais vous serez pas mort.
Que ça ne prenne pas trop longtemps. Ça, c'est sûr, parce que si
le
ça commence à durer
ça
des
dure,
mois...
Le moins... Parce que... Vous savez, les fonds propres des sociétés, ça a cette caractéristique, c'est que vous les bouffez. Ben, tant que vous les bouffez, ça va à peu près. Puis un jour, il n'y a plus de fonds propres.
Oui.
Et à ce moment-là, ben, c'est là où se passe l'accélération dans l'effondrement.
C'est ça, tout à fait.
Donc pour l'instant, il y a des fonds propres, ça va, mais on n'est pas encore dans la phase d'accélération. Quoi.
C'est ça, exactement. Bon, ben, on a déjà fait un bon petit tour de
cette
question.
On a déjà fait un bon petit tour, donc, si j'ose dire un peu vulgairement, serrez les fesses.
Serrez les fesses, affaire à suivre. On continuera
on va en parler, oui. Voilà, on continue à suivre.
On continuera d'en parler, y compris sur l'Université de l'Épargne, d'ailleurs.
Ou c'est le lieu.
Voilà, c'est le lieu, parce que c'est aussi une histoire de bourse, de finances, de portefeuille, hein, ces trucs-là.
Ben, c'est comment on passe de ces réflexions éthérées dont vous venez d'être les témoins à comment je gagne de l'argent sans travailler, quoi.
C'est
quand même beaucoup très intéressant aussi.
Et d'ailleurs, c'est ce qui mène aussi à des décisions diplomatiques et militaires, parce qu'au bout d'un moment, si vous avez le prix du pétrole qui monte à 120 dollars le baril, il y a quelques choix à faire à un moment donné, quoi.
Ben, voilà,
vous
ne
pouvez
pas
juste faire l'économie de ce genre de données.
Non.
Donc voilà, on continuera d'en parler sur l'Université de l'Épargne et peut-être aussi sur l'Institut des Libertés s'il y a des trucs importants à redire. Et sur ce, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Institut des Libertés.
Et merci infiniment.